Manuel Valls dans le Nord, le ministre des Outre-mer a visité ce matin le lycée Michel Rocard de Pointe-Bout, RSM Alcoumac. Une méthode fixée pour aboutir à un accord. Les partenaires doivent se retrouver demain et jeudi pour deux jours de négociations. Le World Mosquito Programme est un succès. Il permet d'éviter le risque d'épidémie de dengue. Les partenaires ont dressé le bilan ce matin à la CPS. À l'étranger, Emmanuel Macron rencontre Donald Trump à Washington. Les deux chefs d'État se montrent optimistes sur la résolution du conflit ukrainien. Et puis en sport, le sans-faute des basketteurs français lors de la phase de qualification à l'Euro 2025. Ils ont signé 6 victoires en 6 matchs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les mardis du magazine Citoyen. Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Jean-François.
Et cette semaine avec vos invités, vous parlerez de la lutte contre le harcèlement à l'école.
Oui, le harcèlement à l'école qui est une problématique dont on parle de plus en plus depuis quelques années. Alors qu'est-ce que le harcèlement? Que mettons en place en Nouvelle-Calédonie pour lutter contre le harcèlement à l'école? Comment impliquer les enfants autour de cette problématique? Autant de questions que nous poserons tout à l'heure à nos invités. Nous serons avec le vice-recteur Didier Vindatich, avec Gérald Giacomino qui est conseiller sécurité auprès du vice-recteur. Nous serons également avec Marion Bénard qui est infirmière scolaire au collège Louise Michel à Pailletaille, avec deux jeunes ambassadeurs de cet établissement scolaire, Sakura et Thibault. Le harcèlement scolaire dans Citoyens, ça sera à suivre juste après votre journal, Jean-François.
Sur les traces de Michel Rocard, le ministre des Outre-mer est dans la province Nord pour la quatrième journée de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls est actuellement à Koumac où il rencontre le RSMA. Il avait débuté sa journée par la visite du lycée Michel Rocard de Pointe-Bout. Un déplacement suivi pour Radio Rythme Bleu par Michael Juneski.
Une séquence chaleureuse aujourd'hui pour Manuel Valls, accueilli au lycée agricole de Pointe-Bout, au lycée agricole Michel Rocard. Évidemment, il y avait un sens politique dans cette visite que n'a pas hésité à rappeler Manuel Valls auprès des élèves inscrits dans cet établissement.
Je suis très heureux pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre. J'ai été jeune collaborateur de Michel Rocard entre 1988 et 1991, quand il était Premier ministre, quand il y a eu les accords de 1988, quand il y a eu la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou. Donc oui, c'est important pour moi. C'est pas seulement un symbole, bien sûr, et ce rappel, parce que là, c'est le passé. Le passé, évidemment, est important, mais ce qui est essentiel, c'est l'avenir. Et dans ce lycée d'enseignement général et agricole, on forme la jeunesse calédonienne et on prépare donc l'avenir. C'est ça qui paraît être essentiel. Et au cours de ces journées, il y a aussi un message d'optimisme que je veux faire passer, qui est le soutien à tous ceux qui préparent l'avenir. On va travailler sur ces dossiers. La formation, la jeunesse, au fond, la grande leçon de ce qui s'est passé au mois de mai dernier, au-delà de la politique, c'est qu'il y a aussi une partie de la jeunesse qui ne va pas bien. Et donc, on doit se préoccuper avant tout d'elle. Et c'est ce message, et je pense que Michel Rocard, qui a tellement compté pour le destin de ce territoire, serait heureux de voir que l'un de ses successeurs, qui était Premier ministre, qui est aujourd'hui ministre des Outre-mer, continue dans cette même lignée, la construction de l'avenir.
Manuel Valls qui a visité tour à tour différents ateliers, agriculture, soudure, tous les élèves ont pu échanger librement avec lui et bien entendu, ils ont été ravis de rencontrer le ministre des Outre-mer.
Bah oui, c'est une fierté parce que ça permet aussi de montrer nous ce qu'on fait, puis bah, nos valeurs à nous, t'as vu, parce qu'on est toujours dans notre coin ou on est toujours petit à l'échelle, alors que voilà, il y a quelqu'un de grand qui vient nous voir, du coup, bah, ça permet de montrer ce qu'on peut faire, parce qu'il voilà, va nous donner la main aussi pour nous plus tard, c'est quelque chose de bien.
Manuel Valls qui aura passé près de 2 heures dans cet établissement, après plusieurs journées marquées par des séquences politiques, c'était donc un moment de respiration pour le ministre des Outre-mer qui poursuit aujourd'hui son déplacement en province Nord. Depuis Pointe-Bout, Michael Juneski, RRB.
Et lors de cette visite, Manuel Valls a évoqué l'engagement pris par le président de la République de la création d'un deuxième lycée agricole en Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement Alcide Ponga, la présidente du Congrès Velma Falaeo, la première vice-présidente de la province Nord, Nadège Fèvre, les maires de Pointe-Bout et de Conay et des représentants de la Chambre d'agriculture accompagnent le ministre dans ce déplacement. En raison des conditions météorologiques, Manuel Valls a dû annuler la visite qui était prévue sur la mine de Copéto. Il doit terminer son séjour en province Nord par un hommage à Tien Danit sur la tombe de Jean-Marie Djibaou. De retour à Nouméa cet après-midi, il se rendra au cimetière du 4e kilomètre pour un hommage à Jacques Lafleur. Et le ministre des Outre-mer terminera ce 4e jour de visite par un dîner au GIEP avec de jeunes Calédoniens. Une méthode, des principes et un calendrier. Manuel Valls a présenté hier à l'ensemble des groupes politiques le dispositif prévu pour entamer des négociations en vue d'un accord sur l'avenir institutionnel. Mais il reste lucide sur les difficultés, Elisabeth Noir.
Le ministre des Outre-mer a rassemblé hier dans l'hémicycle du Congrès l'ensemble des délégations qu'il avait reçues en bilatéral à Paris. C'est un premier succès puisque cela faisait très longtemps que tous les groupes politiques ne s'étaient pas retrouvés ensemble autour d'un représentant de l'État. Il leur a présenté des thèmes et un calendrier et il s'est ensuite entretenu en bilatéral avec chacun des groupes. À la fin de cette séquence, Manuel Valls s'est réjoui face à la presse de ce premier rendez-vous réussi.
Je me réjouis d'abord que nous ayons pu faire, comme nous l'avions proposé, cette plénière de restitution et de méthode, et que l'ensemble des formations politiques représentées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie aient accepté de travailler ensemble. Nous avons ensuite eu plusieurs réunions bilatérales, nous avons échangé directement avec chacun des groupes, avec chacune des formations. Et je pense que nous allons continuer mercredi, jeudi et vendredi ensemble à discuter et à négocier sous ce format où l'ensemble des formations acceptent de se parler les unes avec les autres et avec le gouvernement de la France de sujets qui sont très importants pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
La poursuite des discussions, ce sera donc mercredi, jeudi et vendredi. Et le ministre a tenu à placer ses interlocuteurs face à leurs responsabilités en invoquant le marasme économique et social, la fracture entre les communautés, les violences et le blocage politique. Tout est réuni pour remettre le feu aux poudres, déclare Manuel Valls, qui en appelle au principe de conséquence. À partir de demain, les délégations politiques et l'État vont donc dialoguer, discuter et peut-être même négocier autour de trois thèmes qui ont été précisés hier soir par le ministre des Outre-mer.
Le premier thème, c'est le lien avec la France. Et donc, il faudra discuter de l'autodétermination, de la décolonisation, des questions de citoyenneté, du corps électoral et évidemment des compétences régaliennes. Il n'y a pas de tabou, tout est sur la table, bien évidemment. Le deuxième thème, sans doute jeudi, c'est le thème de la gouvernance, c'est-à-dire celui des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Gouvernement, congrès, province, commune, les compétences et les réformes nécessaires dans ce domaine. Et le troisième thème, c'est celui du nouveau contrat social. Au fond, ce qui fait société, ce qui fait pays. Et avec un sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais parce que ça me paraît essentiel, qui est celui de la jeunesse.
Emmanuel Valls a tenu à ajouter qu'il avait aussi posé un certain nombre de principes essentiels pour prendre conscience de sa détermination à conclure un accord.
Celui de la souveraineté avec la France. Il y a eu trois référendums qui ont tous abouti à une réponse négative quant à l'accession de l'indépendance et à la pleine souveraineté, confirmant bien sûr la volonté d'une majorité de Calédoniens de maintenir le lien avec la République française. Et c'est vrai que la dernière consultation a laissé un sentiment d'inachevé. Deuxième, je l'ai dit, c'est la protection de tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie. Le troisième, c'est la démocratie et l'état de droit. Voilà, ça, c'est les principes qui sont pour l'État et pour le gouvernement de la République essentiels. Et puis il y a d'autres principes, je pense au processus de décolonisation, au fait que la Nouvelle-Calédonie doit être unie et indivisible, et enfin que le droit à l'autodétermination est reconnu par le droit constitutionnel et international.
Fort de ces principes et avec la volonté d'affirmer que la France est là, nous pouvons discuter, déclare encore le ministre des Outre-mer, qui souligne toutefois que le plus difficile reste à accomplir, c'est-à-dire trouver le chemin de l'accord, et il veut rester lucide sur les difficultés. La méthode et les thèmes proposés semblent pour l'instant satisfaire les différentes délégations, même si les loyalistes et le rassemblement, qui étaient un peu circonspects au début, ne se sont pas encore exprimés. L'UC, quant à elle, doit consulter les instances du FLNKS avant de décider de sa participation ou non aux discussions. Elle devrait communiquer sa position dès aujourd'hui, mais a priori, tout le monde devrait être présent demain mercredi pour l'ouverture de ces discussions qui pourraient devenir des négociations en vue de la recherche d'un accord. Un accord indispensable, martèle Manuel Valls. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS. Voici notre question du jour. Est-ce que la méthode présentée par Manuel Valls vous semble efficace pour aboutir à un accord? Si elle vous semble efficace, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis la réponse à la question d'hier, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les partisans de la France ont eu raison d'interpeller, comme ils l'ont fait, le ministre des Outre-mer au premier jour de sa visite en Calédonie. Ils sont 32% à penser qu'ils n'ont pas eu raison. En fin de journée hier, Manuel Manuel Valls a réuni les acteurs du monde économique au Haut Commissariat. Il les a assurés de l'engagement et de l'accompagnement de l'État. Il a ensuite détaillé 8 mesures, dont certaines étaient déjà connues, comme la prolongation du dispositif de chômage partiel jusqu'à fin juin, ou encore le lancement immédiat de la reconstruction de 56 bâtiments publics. Parmi les autres mesures annoncées par Manuel Valls, c'est la prise en compte des dossiers d'aide aux entreprises au cas par cas. Il a également annoncé de nouvelles actions pour accélérer l'indemnisation des assurances et le souhait de voir aboutir la mise en place d'un mécanisme public de risque émeute au niveau national. Xavier Benoît, le président de la FINC, a participé à cette rencontre et il était ce matin notre invité à 7h30. Il estime qu'il faut maintenant passer à l'action.
On a une question sur la méthode aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre maintenant les dispositifs ? Parce que ce qu'on a rappelé, c'est que ça fait plus de 9 mois que les émeutes ont débuté, et 9 mois après, le marasme se poursuit, et l'inquiétude, que ce soit des chefs d'entreprise ou des salariés qui ont perdu leur emploi, elle est grandissante, et on oublie certaines composantes de notre société. Je rappelle qu'on oublie aujourd'hui les travailleurs indépendants et les toutes petites entreprises.
Ça a été évoqué hier soir ?
Ça a été évoqué à 2 reprises hier soir, hein, et il n'y a pas de dispositif aujourd'hui pour les accompagner, et ça ne peut pas être les laisser pour compte de ce qui est en train de se passer. Et puis, moi, je veux réinsister sur la nécessité de penser à ces 12 000 salariés qui ont perdu leur emploi en 2024. Et la question de comment est-ce qu'on fait pour recréer 12 000 emplois assez rapidement en Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet. Et ce n'est pas aujourd'hui une méthode qui est complètement inscrite dans le marbre, notamment sur le développement des filières.
Xavier Benoît est également revenu sur la prolongation du dispositif de chômage partiel exaction jusqu'à fin juin.
Il y a 2 sujets que le ministre a rappelé dans son annonce de poursuivre le dispositif de chômage partiel. La première annonce, c'était son attente pour que effectivement on fasse évoluer le dispositif de chômage partiel de droit commun en Nouvelle-Calédonie. Et puis il a clairement exprimé le fait qu'il devait y avoir une dégressivité dans ce chômage à compter du mois de mars jusqu'à fin juin. Et puis sur le financement, il l'a dit que c'était un financement qui serait apporté par le prêt garanti par l'État, donc le fameux milliard d'euros. C'est des discussions qu'on doit maintenant mener avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puisque la question c'est est-ce qu'on aura assez avec ce milliard pour financer tout ce qu'on voudrait financer.
Xavier Benoît affirme que Manuel Valls ne va pas conditionner l'aide de l'État à des réformes dictées par Paris.
Ce que j'ai entendu du ministre hier, c'est qu'il n'imposera pas des réformes à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, je pense que c'était un signe important, c'est-à-dire qu'il n'imposera pas qu'on signe des réformes qui ne sont pas voulues par les Calédoniens. Donc je pense qu'il faut qu'on s'attache à ça.
Il n'y a pas bien le choix, de toute façon, parce que ça passe par le Congrès.
Oui, mais bon, on sait qu'aujourd'hui, il y a des conventions qui ont été signées avec l'État et que l'État les remet devant notre nez pour nous dire ah, « Attention, non, je ne peux pas faire ça parce que vous avez signé une convention qui dit le contraire et donc il faut qu'on soit vigilant. »
Xavier Benoît, président de la FINC, qui était donc ce matin notre invité à 7h30. Il estime que le monde économique doit être associé aux discussions sur l'avenir institutionnel. C'est une interview évidemment que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur notre site rrb.nc. À 11h43, la première pause. Dans un instant, nous verrons que le World Mosquito Programme est un succès. Les partenaires ont dressé le bilan de l'opération lancée en 2019 ce matin.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Les instants Magnum à 230 francs sont de retour jusqu'au 23 mars. C'est le moment ou jamais de craquer pour votre parfum préféré. Classique, Amande, Star Chaser ou Euphoria Wonder. Votre Magnum préféré à 230 francs, c'est le moment de vous faire plaisir. Offre valable jusqu'au 23 mars 2025 sur les bâtonnets Magnum vendus à l'unité dans les points de vente participants à l'opération. Plus d'infos sur la page Facebook Magnum & Co.
Oh là là, la rentrée arrive, je vais être débordée. Entre les courses, les enfants, les repas.
Les repas ? Pas de panique, avec la casserolette, tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt. Ils livrent des plats variés, chez toi ou au bureau.
Sérieux ? La solution toute cuite ?
Eh oui, tu commandes en ligne, sans engagement, sur www.lacasserolette.nc.
Ah, mais c'est génial ! Merci pour l'idée !
La casserolette, un service aux petits oignons depuis 1990.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le World Mosquito Programme est un succès. Lancé en 2019, il touche désormais à sa fin. 24 millions de moustiques porteurs de Wolbachia, la bactérie qui bloque la transmission des arboviroses, ont été relâchés dans le Gros Nouméa et les partenaires ont dressé ce matin un bilan de ce programme à la CPS, Nicolas Legrand.
Oui, Jean-François, et la restitution vient de se terminer il y a quelques minutes. Alors, c'est le bilan, en fait, de 7 années de programme. Les intervenants ont rappelé notamment les débuts parfois difficiles où il a fallu convaincre les différentes institutions. Mais aujourd'hui, ce programme est totalement accepté et même soutenu par plus de 90% de la population selon un sondage. Il faut dire que le World Mosquito Programme a fait ses preuves. Il n'y a plus eu d'épidémie de dengue depuis 5 ans maintenant sur le territoire. Alors vous l'avez dit, Jean-François, mais c'est intéressant de le rappeler, quelques chiffres, 24 millions de moustiques porteurs de Wolbachia relâchés, 85% de la population en faveur de ce programme. Et aujourd'hui, 86% des moustiques sont porteurs de cette bactérie Wolbachia, vous le savez, qui bloque la transmission des arboviroses sur le Grand Nouméa. Alors les chiffres sont un petit peu différents d'une commune du Grand Nouméa à l'autre, mais globalement, des chiffres extrêmement satisfaisants et qui permettent de bloquer les épidémies. On est à par exemple 87% de moustiques porteurs de Wolbachia à Nouméa, 91% à Dimbéa, 88% au Mont-d'Or et 80% à Païta. Il y a encore des quartiers les moins denses, finalement, où il y a encore des difficultés. Au Mont-d'Or, c'est par exemple Saint-Louis. Sur la commune de Nouméa, ça peut être Nimbo ou encore Nouville, où il y a encore des points d'intérêt. Et d'ailleurs, tout le but du programme qui va se poursuivre dans les années à venir, c'est de suivre l'évolution de ce pourcentage de moustiques porteurs de Wolbachia. Alors, c'est évidemment un point positif pour la santé des Calédoniens, et c'est un point positif aussi pour le système de santé, puisque le programme a coûté 800 millions de francs, alors qu'une seule épidémie de dengue coûte 1,6 milliard selon les services de la DAS. Ce sont donc des économies qui sont réalisées chaque année. Alors, ça ne veut pas dire que la dengue est éradiée pour autant. Il y a toujours des risques d'importation de la maladie ou de nouveaux moustiques qui ne seraient pas des Aedes aegypti. Il est donc toujours recommandé de se protéger en retour de voyage et de détruire les gîtes larvaires. À la CPS, Nicolas Lebrun, RRB.
L'UGPE poursuit sa mobilisation. Le collectif Urgence Sociale était réuni ce matin devant la province sud. Depuis 3 semaines, il proteste contre certaines mesures prises par la collectivité pour s'adapter à la crise. Pendant 1 mois, une quinzaine de référents sont allés à la rencontre des parents d'élèves et ont relevé les difficultés auxquelles ils font face. La liste établie compte 150 noms et elle a été déposée par le collectif ce matin à la province sud. Le secrétaire du bureau de l'association, Jean-François Toutiquian.
La troisième liste est constituée pour l'instant de 150 noms d'enfants et de parents qui rencontrent des problèmes pour la scolarité de leur enfant au niveau de l'obtention des bourses, des repas à la cantine, mais aussi également des refus d'inscription en maternelle, mais également à l'école élémentaire. On attend grosso modo 3 choses de la province sud. Première chose, c'est qu'on puisse se mettre autour d'une table et qu'on travaille sur les listes. La deuxième chose, on attend qu'il y ait une abrogation de la délibération du 15 juillet 2024, puisqu'il y a des parents à qui on oppose qui n'ont pas 10 ans de résidence dans la province sud pour pouvoir bénéficier de la bourse. La troisième chose aussi que l'on attend, c'est que les attestations d'hébergement soient à nouveau reconnues.
Jean-François Toutiquian, le secrétaire du collectif Urgence Sociale, l'UGPE, annonce également avoir entamé 20 de recours en justice, mais aucun n'a abouti. En bref, un feu dans un local poubelle ce matin dans le quartier de Tuban. Une épaisse fumée a été aperçue peu avant 9h. Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre les flammes qui s'étaient propagées à plusieurs poubelles et détritus sans toutefois faire de dégâts. À Paris maintenant, le salon de l'agriculture se poursuit et le village du Pacifique ne désemplit pas. Parmi les visiteurs du jour, le Premier ministre François Bayrou et la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Annie Genevard et Anna Colombo.
Ils se sont arrêtés au village du Pacifique où les attendaient les présidents des 3 chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna. Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre de Nouvelle-Calédonie a pris la parole au nom des 3 chambres consulaires. Il a notamment annoncé la création d'une fédération des 3 chambres d'agriculture du Pacifique, demandé l'aide de l'État pour qu'il accompagne l'agriculture des territoires comme il le fait pour les départements d'outre-mer et évoqué le projet de second lycée agricole annoncé par le président Macron en 2024 et qui devrait être construit à la fois. Ce salon est également une opportunité de faire découvrir les produits locaux, mais en raison des circonstances sur le territoire, la délégation calédonienne dispose de peu de produits. Alors, plutôt que de les vendre, elle a choisi de les faire déguster aux visiteurs. Les détails de Guilain de Coudeneuve, le directeur général de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.
On a apporté des produits pour mettre en valeur l'excellence des filières calédoniennes, notamment celles qui s'exportent. On a la crevette bleue de Nouvelle-Calédonie, qui est un produit d'exception. C'est le seul territoire au monde où on produit cette crevette, qui est très appréciée, et sur laquelle on pourrait avoir des vraies perspectives de croissance, de levier de croissance, de création d'emplois. Et puis, on a évidemment notre thon, le thon calédonien, qui est un thon qui est pêché dans le parc de la mer de Corail, donc d'une façon très responsable. Donc on va mettre ces deux produits en avant. Et puis on a la viande bovine, parce que la viande bovine, c'est aussi l'identité calédonienne, avec une viande d'exception. On a des charges à l'hectare qui sont extrêmement extrêmement basse comparée aux autres producteurs de par le monde. Et donc on veut mettre ce produit en avant. On ne l'exporte pas vraiment aujourd'hui, mais on pourrait le faire demain. On sait que gustativement, on a une viande qui est excellente. Et puis elle est aussi originale, parce qu'on croise des races tropicalisées avec des races européennes. Et donc ça en fait un produit d'exception qui est tout à fait comparable à de la Limousine ou à de la Charolaise qu'on peut trouver ici.
Avec un marché intérieur assez vite saturé, mais avec de grosses possibilités en volume, l'agriculture et la pêche calédonienne ont donc vocation à se tourner vers l'export. Mais pour pénétrer ces nouveaux marchés, la qualité des produits calédoniens ne suffira pas. Il faudra aussi obtenir des autorisations de l'Europe et du ministère de l'Agriculture, explique Lionel Brinon, premier adjoint à la mairie de Lafoy, président de l'OSEF et de la commission Agriculture et Pêche du Congrès.
En Nouvelle-Calédonie, en fait, le marché intérieur est quand même petit et on a des producteurs qui savent produire, mais que nous sommes obligés de restreindre dans leur capacité de production par rapport au marché intérieur, alors qu'à l'exportation, on pourrait vraiment leur permettre de produire plus. On a la crevette qui continue à bien marcher, mais on a également commencé à travailler avec Rungis pour voir comment on pouvait mettre sur le marché des viandes de bœuf d'excellence. Il faut qu'on continue, on a d'autres productions, on a le café, on a la vanille, on a d'autres productions qu'on pourrait exporter. Et pour ça, il faut qu'on soit présent et il faut qu'on puisse avoir les autorisations nécessaires de la part de l'Europe et du ministère de l'Agriculture au niveau national pour qu'on puisse rentrer sur les marchés français et européens.
Lionel Brinon au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Le salon de l'agriculture refermera ses portes le 2 mars prochain.
On va se retrouver dans un petit instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde. Ce sera après une nouvelle pause, vers la fin d'un conflit en Ukraine. En tout cas, les choses semblent de plus en plus probables.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Envie de 12 mois gourmands jusqu'au 15 mars? C'est le moment de tenter votre chance avec la Niçoise. 3 gagnants au tirage au sort pour un an, un mois ou une semaine de délicieux repas pour deux. Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook La Niçoise et lancez-vous. En plus, si vous êtes déjà client, vos chances de gagner doublent. C'est gratuit et sans obligation d'achat. La Niçoise prend soin de vous.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Bientôt un accord pour une fin de conflit en Ukraine. La perspective semble se confirmer à l'issue d'une rencontre à Washington entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les deux hommes ont parlé des droits de douane, mais surtout du dossier ukrainien, laissant apparaître à l'issue de leur rencontre des espoirs de résolution plutôt proches. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Les deux présidents se montrent optimistes. Les choses avancent rapidement, affirme Donald Trump. Volodymyr Zelensky est ainsi attendu à Washington dans les prochaines semaines pour conclure un accord de paix qui inclurait un marché autour de l'exploitation des minerais ukrainiens.
Notre objectif, c'est d'arriver à un cessez-le-feu le plus rapidement possible et à terme d'arriver à une paix permanente. Ma réunion avec le président Macron aujourd'hui représente une autre étape importante de franchie. Il a été très impliqué depuis le début pour essayer de mettre fin à cela et je pense qu'on va y arriver.
Emmanuel Macron évoque lui des avancées substantielles et se dit conscient des efforts que l'Europe doit fournir pour assurer sa sécurité.
Nous sommes engagés comme Européens pour être partie prenante, justement, de ces garanties de sécurité. Et plus largement, nous sommes engagés, conscients que nous sommes, que les Européens doivent encore faire davantage pour un partage plus juste du fardeau sécuritaire que votre pays porte depuis plusieurs années.
Emmanuel Macron reste néanmoins vigilant sur l'accord de paix qui doit, selon lui, garantir à l'Ukraine une protection crédible et durable face aux velléités d'expansion de Vladimir Poutine.
Et de son côté, justement, Vladimir Poutine aurait donné son accord au déploiement de troupes européennes en Ukraine pour faire respecter l'éventuel accord en cas de signature. Rima Hassan, persona non grata en Israël. L'eurodéputé LFI, sous le coup d'une procédure en métropole pour apologie du terrorisme, a voulu se rendre dans les territoires palestiniens, mais elle a été refoulée à son arrivée à l'aéroport de Tel Aviv. Explication de Frédéric Simon pour Europe 1.
C'est le ministère en charge des relations avec la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme qui a recommandé au ministère de l'Intérieur d'interdire à Rima Hassan l'entrée en territoire israélien. Motif invoqué, la députée au Parlement européen a appelé publiquement au boycott de sociétés travaillant en Israël et elle a publié des contenus en faveur de sanctions contre l'État d'Israël. Le ministre Amichai Shikri a précisé qu'Israël se réservait le droit de ne pas autoriser autoriser l'entrée sur son territoire à des officiels étrangers, y compris à des députés au Parlement européen, si ces derniers œuvraient en faveur du boycott de l'État hébreu et portaient atteinte à sa légitimité. Ces arguments ont donc été retenus par le ministère de l'Intérieur, qui est habilité à refouler l'entrée en Israël de ressortissants étrangers. Rima Hassan et les autres membres de sa délégation devaient séjourner plusieurs jours dans les territoires autonomes palestiniens. Des rencontres étaient prévues avec des responsables de l'autorité palestinienne et ceux d'institutions internationales présentes en Cisjordanie.
Le procès du terroriste de la basilique de Nice se poursuit. Brahim Aouissaoui est accusé d'avoir assassiné 3 personnes dans la basilique le 29 octobre 2020. Lors de son audience, il a reconnu les faits, même s'il ne se souvient plus des détails, jurant que le choix de la basilique pour commettre son crime était un pur hasard. En revanche, il reconnaît les faits et dit avoir voulu venger les musulmans. Écoutez Maître Philippe Soucy, il est l'avocat de l'Association française des victimes du terrorisme et de la famille de l'une des victimes de l'attentat.
On a eu pendant 3 heures la revendication de sa part des faits qu'il a commis. C'était un moment très douloureux d'entendre un individu reconnaître des faits d'une telle atrocité et en même temps les assumer, les revendiquer. On avait ce matin ce qu'on a fréquemment dans ce type de procès, ce que j'appelle le djihad, jusque dans le boxe.
Philippe Soucy, avocat de l'Association française des victimes du terrorisme. 2 influenceurs algériens devant la justice pour avoir appelé à des actes de violence sur le sol français. Doualem a été condamné à 18 mois de prison ferme. Le jugement concernant Zazou Youssef a été mis en délibéré au 6 mars. Le ministère public a requis 6 mois de prison avec sursis. Avec l'affaire de l'attentat de Mulhouse, cela repose la question de l'expulsion de ressortissants algériens. À 10 reprises, le pouvoir algérien a refusé l'entrée sur son sol de l'auteur de l'attentat de Mulhouse. Alors comment la France peut-elle riposter ? Maïhélène Trémollet pour Europe 1.
Revenir sur les accords bilatéraux de 1968, réduire le nombre de visas délivrés à l'Algérie ou encore geler les avoirs des dignitaires algériens résidant sur le territoire français, ce sont les pistes défendues par Bruno Retailleau. C'est le symbole donné qui sera efficace en réalité. Le retour sur les accords de 68, par exemple, ça veut surtout dire que la fête est finie, explique un conseiller. Mais ces pistes ne font pas l'unanimité au gouvernement. On connaît les outils diplomatiques. La question est celle de la volonté politique de rentrer dans une relation compliquée avec l'Algérie, précise un poids lourd à l'intérieur. Il faut dire qu'au Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot souhaite à tout prix préserver le dialogue avec Alger et refuse, je cite, un rapport de force pour le rapport de force. Une source gouvernementale tempère. Il y a une différence de point de vue entre les deux ministères, mais les lignes peuvent bouger. Rien n'est figé à ce stade. Des divergences qui doivent être tranchées lors du Conseil interministériel sur l'immigration par François Bayrou, le Premier ministre qui appelle à faire comprendre au pouvoir public algérien la détermination de la France.
Il est 11h58, c'est la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et on retrouvera ensuite le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer avec le basket et l'équipe de France s'impose au buzzer face à la Bosnie-Herzégovine. Elle signe un sans faute en qualification de 7 Euro 2025, Léana Colombo.
Et victoire de nos tricolores 76 à 74. Un succès arraché à la dernière minute sur un panier signé Eli Okobo. Avec cette victoire, l'équipe de France masculine de basket assure une 6e réussite en autant de rencontres. À noter qu'il y avait peu d'enjeux sportifs puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées pour la compétition qui se déroulera du 27 août au 14 septembre prochain. L'équipe de France, actuellement vice-championne, visera un 2e titre dans son histoire, 13 ans après l'Euro 2013.
Du tennis et on suit plusieurs Français en compétition à l'étranger.
Depuis 11h30, le tricolore Arthur Rinderknecht affronte le numéro 5 mondial Casper Ruud lors du premier tour de l'ATP 500 d'Acapulco au Mexique. Autre compétition à l'occasion du premier tour de l'ATP 500 de Dubaï. Giovanni Mpeci-Pericard s'est imposé en 2-7, 6-3, 7-6 face au Chinois Xin Zhenzhang. À 21h, Arthur Fils sera opposé au Portugais Nuno Borges. Quentin Alice affrontera quant à lui à 23h le joueur russe Andrei Rublev, 9e au classement ATP.
Et puis on termine avec le sport sur le territoire et l'Open international de squash célébré à l'occasion des 40 ans de la salle Picou a débuté hier.
Une compétition qui réunit 70 participants, dont 4 invités nationaux et internationaux. Sans réelle surprise, ils se sont qualifiés pour le prochain tour. Auguste Dussour, numéro 5 français, affrontera Maxime Bouvet. Et Nora Villard, 3e meilleure française, sera confrontée à Manoa Doucet. Baptiste Mazotti, le numéro 2 français, défie hier un jeune joueur âgé de 8 ans et qui n'a pas démérité, Roman Chasseau. Mazotti rencontrera Jessie Sakiman pour le prochain match. Enfin, la malaisienne Siva Sangari Subramaniam, numéro 10 mondial, affrontera Jean-Jacques Annonier. La compétition se déroulera jusqu'à samedi à Sainte-Marie.